Voilà, alors donc le sujet que je voulais partager avec vous, c'est l'enjeu de l'adoration. Alors en réalité, c'est venu d'une visite qu'on a faite, ma chérie, à Copenhague. Et à Copenhague, donc la ville, le pays donc protestant, et c'était l'honneur de Luther. Je ne suis pas protestant, mais certaines idées Luther sont très bonnes dans celle-là. Et j'ai vu, il y avait des panneaux, et il y en avait un que Luther avait bagarré pour le sacerdoce universel. C'est-à-dire qu'on est à une époque où l'Église catholique tout prie, et les fidèles ne prient plus. Alors que la Bible nous encourage à prier, personnellement, individuellement. Et ça m'a touché. J'ai dit, tiens, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et puis, bon, l'idée a fait son chemin, il s'est passé des choses, etc., etc. Vous voyez, quelquefois, ça prend du temps. Hein. Et puis, j'ai vu que l'adoration, en réalité, il y avait un enjeu. Et je vais essayer de vous expliquer quel est cet enjeu. Donc, il faut aller dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Et là, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il y a une rencontre extraordinaire entre un homme extraordinaire et une femme, mais tout à fait ordinaire, donc une Samaritaine. Alors, les Samaritains, je ne sais pas si vous savez, mais c'était des gens qui étaient en opposition avec les Juifs, sur plein de sujets, enfin, il y a toute une histoire, mais je ne peux pas vous raconter, mais il y avait une opposition, quoi, terrible. Et le Seigneur est là, il a soif, il demande à cette femme, il va avoir et tout. Il y a tout un dialogue qui va se faire, et à cette femme, qui n'est pas quelqu'un d'autorité religieuse, il aurait pu parler de ce qu'on va voir là, avec le Sanhédrin, avec un quelconque scribe, je ne sais pas, non, avec une femme. Et une femme qui n'est pas du tout honorable. Mais cette femme a un besoin et le Seigneur lui discerne. Et donc, elle dit à un moment, nos pères, donc les Samaritains, ont adoré sur cette montagne. La montagne, c'était le mont Garizim, là où les Samaritains donc adoraient. Sans le connaître d'ailleurs. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, vous voyez, le conflit spirituel, hein. Mont Garizim, Jérusalem, et le Seigneur va lui faire une révélation extraordinaire, qui est une des plus belles révélations que le Christ ait fait à quelqu'un. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, mais l'heure vient, venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Quoi ? Le Père demande les adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Donc c'est à une femme que le Seigneur confie cette chose incroyable et merveilleuse. Le Père demande des adorateurs. Et cette adoration se fera non pas comme ça se faisait à l'époque du judaïsme, mais d'une manière nouvelle, d'une manière tout à fait nouvelle. D'ailleurs, quand le Christ dit que ce n'est pas à Jérusalem, c'est une prophétie, puisque quelques dizaines d'années plus tard, le temple va être détruit. Donc c'est terminé. Et on passe à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Donc, cette déclaration du Christ annonce que le futur lieu d'adoration, eh bien, c'est ce qui sera écrit dans Matthieu 18, 20, là où deux ou trois sont réunis pour nous. Et je trouve ça extraordinaire. Je suis très ami avec avec le rabbin de Nanterre, oui, je suis ami avec ce jour-là. Et puis donc, vous pouvez même inviter les Pochanouka pour des fêtes comme ça. Je me laisse inviter parce que je sais ce qu'un jour je vais leur dire concernant le Christ. Ça me trahit le cœur. J'aime ces gens-là, c'est quand même eux qui sont notre source, etc. Ils savent que nous, les évangéliques, on aime beaucoup le peuple juif, bref. Et là-bas, il faut être minimum 10. C'est écrit, hein, vous avez un panneau qui incite les Juifs à venir aux réunions de prière, parce que s'ils ne sont pas 10, c'est le mignon. S'il n'y a pas 10, il n'y a pas. Ben, nous, c'est 2. Nous, c'est 2. Ou 3. Et là où 2 ou 3 sont venus pour nous, c'est là, nous, 2 ou 3. Non. Si on est 100, c'est mieux. Si on est 1000, c'est mieux, mais 2 ou 3. Le Seigneur n'est pas exigeant au niveau de la quantité. Mais par contre, il est exigeant de la qualité. C'est pour ça qu'il dit, il faut que ceux qui adorent le fassent en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire en esprit? Ben, par rapport aux rituels religieux des Juifs, des actes physiques, hein, vous savez comment ça se passait, des sacrifices, des pèlerinages, des dons, de toute espèce, des répétitions de prières, de prosternations, etc., afin d'obtenir une faveur. Nous, nous adorons parce que nous avons reçu la faveur. C'est totalement différent. Et c'est vrai que quand on loue le Seigneur, on l'adore, on ne le fait pas pour avoir une grâce particulière, supplémentaire, on l'a déjà. Et donc, on le remercie pour ça. Et la différence est essentielle. Donc, ça parle de l'esprit. Quand on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter notre esprit. C'est lui qui va nous encourager à louer ou à adorer. Cet esprit va communiquer à notre corps, notre âme, toute la palette de sentiments qu'un chrétien peut connaître, la tristesse de savoir que le Seigneur est mort pour toi, qu'il a souffert, mais épouvantable, mais aussi la joie quand on parle de sa résurrection, de l'avenir, qu'un jour on sera avec lui. Hein, un cantique que j'aime beaucoup, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Ça, je pense que vous le connaissez peut-être, c'est un cantique, je l'aime parce que je sais que c'est une réalité, et puis j'aime tellement le Seigneur, comme vous l'aimez, j'en suis sûr. Savoir qu'un jour mes yeux le verront, c'est la plus belle de récompense que je crois qu'un chrétien peut connaître. Le voir, l'admirer. C'est extraordinaire. Bon. Alors donc, notre esprit communique à notre âme, donc tous les sentiments qu'un chrétien peut connaître, et la palette est énorme, ces sentiments vont se traduire par le chant, la lecture, etc. etc. Donc, tout notre corps est intéressé par la louange, l'adoration. Et c'est bien ce que va dire David dans le psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint. Alors on sait que David était un musicien. Donc ça partait de son esprit, je crois, son fil, son corps, son être, et puis d'autres. Voilà. Donc on voit que tout l'être humain est dans la louange et dans l'adoration. En vérité, ben, le Christ dit lui-même, ta parole est la vérité. Plus vous connaîtrez la parole de Dieu, plus vous le louerez de manière juste, vraie, véridique, et plus vous lisez la Bible, plus vous trouvez de sujets de louange et d'adoration. Et moi, je lis peu de livres hors de la Bible, mais ce n'est pas forcément bien. Et ce que j'aime, c'est de trouver des petites perles. Alors, ces petites perles, ces persos, je ne les ai pas lus, je ne les ai pas vus dans un livre, c'est des trucs que je découvre. Et à chaque fois, je vous assure, je suis comme un gamin, je suis vraiment comme un gamin, je loue mon père. Alors, je n'ai pas eu de père, je n'ai jamais connu, enfin, j'ai eu un père, mais je ne l'ai pas du tout connu. Et quand j'étais gamin, les autres gamins disaient, oh, mon père, il est super, mon père, il fait ceci, mon père, il a cela. Et moi, je n'avais rien à dire, tout, j'étais un peu frustré. Bon, pour eux, ça a changé plus tard. 8 ans, papa, papa, puis après, bon, papa, bon, je ne fais pas de ça, vous savez. Et moi, j'étais frustré. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui déjà depuis un long moment, je suis très, très fier de mon père. Très, très fier de mon père, Céleste, parce que franchement, il est fort. Et des fois, je dis, ah, Seigneur, t'es vraiment très fort, parce qu'il fait des choses extraordinaires. Quand on découvre la parole, on se dit, mais tout le nombre de choses que le Seigneur a fait, waouh, c'est super, t'as... Enfin bref, ça, c'est merveilleux. Donc, plus je connaîtrai la Bible, plus je connaîtrai la vérité, et non pas les pensées perso, plus je connaîtrai la vérité, plus j'aurai de sujets pour adorer et louer le Seigneur. Alors, la louange, c'est toujours pratiquement dans l'Ancien Testament pour ce que le Seigneur a fait ou réalisé. On le loue pour ses hauts faits, voilà. L'adoration, c'est pour ce qu'il est, voilà. J'adore Dieu pour toutes ses qualités, que ce soit son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa fidélité, sa sainteté. Moi, j'aime bien son autorité. Quand il dit, il fait. Et aujourd'hui, on est dans un monde où l'autorité n'existe plus. Et dans le décalogue de la création, il dit 10 fois, Dieu dit, et la chose se fait. Et c'est rassurant, parce que quand il dit, tu es mon enfant, je t'aime, et bien, je sais que c'est vrai. C'est pas comme les gens. Donc, on le loue pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il a réalisé. Alors, on le loue pour la beauté de la création, toutes ces choses-là. Mais on l'adore pour ce qu'il est. Donc, il y a une petite distinguo. Bon, il ne faut pas trop, mais elle existe. Elle existe. Les deux mots sont différents, donc elle existe. Donc, le Seigneur demande des adorateurs en esprit et en vérité, et Dieu demande donc cette révélation, les adorateurs que le Père annonce. Donc pour nous, il y a une conséquence. Quand j'annonce l'évangile à quelqu'un, bien sûr, ce que je désire, c'est son salut. Ouais, mais il n'y a pas que ça, mes amis. J'ai toujours la pensée, toi, je veux que tu sois un futur adorateur. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le salut de la personne, mais je veux que cette personne devienne un adorateur. Et quand un chrétien, une jeune chrétienne, une chrétienne au début, ne sait pas trop quoi dire, etc., même s'il balbutie, pas grave, la première fois qu'il remercie Dieu, je dis, s'il savait à quel point c'est la victoire de Christ qui se manifeste, parce qu'il témoigne, parce qu'il loue, parce qu'il adore. Donc il faut toujours avoir en vue, dans la personne à qui j'annonce l'évangile, que ça sera un futur adorateur. Et je dis, pour moi, j'espère que c'est pour vous, une très belle motivation. C'est pas perso, c'est ce que le Seigneur demande. Le Seigneur veut des adorateurs. Donc dans la rue, quand j'annonce l'évangile, des fois vous voyez des gens, ah, je le verrai bien en train de glisser dehors celui-là. Et c'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que le Seigneur veut. Voilà. Donc c'est un but complémentaire, parallèle, d'être, de vouloir que des personnes deviennent des adorateurs. Alors, après, mon cheminement a changé, et il y a un auteur américain, William Tozer, je ne sais pas si tu connais, qui a écrit quelque chose, je vais vous lire. L'adoration est le joyau manquant dans l'évangélisme moderne. Le joyau manquant dans l'évangélisme moderne. Nous sommes organisés, nous travaillons pour le Seigneur, nous avons nos programmes, nous avons pratiquement tout, mais il y a une chose que les églises, même les églises évangéliques, n'ont pas, c'est la capacité d'adorer. Nous ne cultivons pas l'art d'adorer, c'est la pierre précieuse, pleine d'éclat, qui a malheureusement été perdue dans l'église moderne, et je crois qu'il nous faut la chercher jusqu'à la trouver. Donc, une église, rassemblement de chrétiens, c'est un endroit où l'adoration est un art, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de le faire, et on fait avec tout notre cœur et toute notre pensée. Et je pense à chaque fois à l'église d'Éphèse. Vous connaissez peut-être cette église, le Seigneur, cette lettre, loue l'Église. Et il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Si ça va être là, je dis, bah, l'Église d'Éphèse, c'est le top. Hein. C'est le top. Et puis, mais, j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Alors, quelle est la différence entre les premières œuvres et les anciennes? Ils ne le font plus par amour. Et dans l'assemblée, quand on loue le Seigneur, ça doit être par amour. Et l'amour doit être la source de tout ce que nous faisons. D'ailleurs, il y a un très beau verset dans 2 Corinthiens 5,14, et celui-là, notez-le, parce que c'est un verset qui me plaît beaucoup. L'amour de Christ me presse. L'amour de Christ. Pas question de faire quoi que ce soit dans l'Église, par routine, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait, nos programmes, etc. Non. Si ce n'est pas l'amour de Christ qui vous pousse à le faire, 2 Corinthiens 5,14, on tombe dans le problème des fesses. On tombe dans le problème des fesses, on va faire les choses. Il y a des églises qui ont une organisation, mais extraordinaire. Hein. Vous voyez ce qu'ils font, ils disent tout est réglé. Quelle est la source? Quelle est le mobile? Seigneur, je le fais parce que je t'aime et je veux vraiment faire des choses parce que je t'aime. Et je sais que quand on commence, nous, un peu la nouvelle année scolaire, donc on reprend les activités à l'Assemblée, même les choses qu'on fait, je ne dis pas on va recommencer comme l'année dernière, non. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est moi qui vous encourage ou est-ce que le pasteur m'encourage? C'est son travail, c'est normal, mais ce n'est pas la motivation première. La motivation première, c'est pas dire on va faire parce que sinon le pasteur il va nous reprendre si on le fait pas. Non, ça vaut zéro. Amen. Mais si je le fais parce que c'est l'amour de Christ qui me prête, je ne peux pas faire autrement. C'est normal, c'est l'amour. Voilà. Et donc Éphèse, avec tout son système, elle avait perdu ce premier amour. Et c'est très grave parce que le Seigneur est prêt à retirer le chandelier. Mais si le Seigneur retire le chandelier, ça veut dire qu'il est plein. Et pourtant, il y a tout. Mais il n'y a plus rien. Il vaut mieux faire peu, de tout notre cœur que de faire beaucoup parce que c'est une machine, comme une entreprise, ou je ne sais pas quoi. Bon, je pense que vous avez tous compris ce que je veux dire. Et puis un autre chrétien, et c'est un peu la source, mais je ne sais pas combien de temps je vais avoir, vous coupez le micro s'il le faut.
25 minutes.
Encore ça va. Il dit, ce frère, que l'adoration, à qui va l'adoration, c'est le conflit suprême de l'univers, qui nous dépasse complètement, c'est vrai, mais c'est l'enjeu suprême du conflit de l'univers. C'est-à-dire que, effectivement, tout est l'attitude en adore. C'est un phénomène humain. Du pôle nord au pôle sud, même des gens qui sont complètement isolés des autres, tout le monde pratique l'adoration. Tout le monde. D'une manière différente, mais tout le monde. C'est indéniable. Pourquoi ? Parce que, il est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité, donc de l'au-delà, des choses supérieures. Et donc, toute l'humanité adore. Et nous sommes aussi partie prenante dans ce conflit. Satan fera toujours tout ce qui est en son pouvoir, dans sa haine de Dieu et par son orgueil insensé, pour récupérer ou pour détourner sur lui l'adoration qui revient à Dieu seul. Ça, mes bien-aimés, il faut qu'on en soit conscient. Malheureusement, si tout le monde adore, peu adore, mon esprit en vérité. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas une religion dans laquelle il n'y a pas un rite d'adoration. Donc toutes les religions ont tout ça. Autrement dit, toutes ces choses-là sont des impostures. Ce sont des imposteurs. Et ils détournent par tous les moyens, donc, l'adoration vers quelqu'un d'autre que le Christ et que envers Dieu. Alors ça peut être des saints, ça peut même être des personnes très importantes dans nos églises, entre guillemets, pseudo-chrétienne, je ne veux pas être trop méchant, où on adore quelqu'un d'autre. Un exemple, et je veux, en aucun cas, je suis d'origine catholique, donc je ne suis pas là pour faire du mal aux catholiques, mais je suis là pour montrer un exemple. Dans l'assemblée, il y avait une sœur qui, bien sûr, était d'origine catholique et tout, donc il y avait un petit conflit entre nous, et elle me disait, oui, mais tu comprends, à Lourdes, il y a des miracles et tout. J'ai dit, moi, je pense qu'à Lourdes, il y a des miracles. Parce que Satan est capable de faire des prodiges, il nous est dit dans le livre d'Apocalypse, il ne va pas gêner pour en faire, pour détourner les gens de nous. J'ai dit, bon, admettons qu'il y ait des miracles, je viens de croire. La personne, il y a eu un miracle, ok. Qui adore-t-on et qui remercie-t-on? Détournement caractérisé de l'adoration qui vient. Satan fait toujours et fera toujours ce qu'il peut pour détourner les gens de la vérité à l'ordre. Même nous chrétiens. Parce que l'amour de l'argent, on sait, c'est aussi une idolâtrie. Il y a plein de choses. L'ennemi va essayer par mille et un moyens de nous détourner. Et la preuve de ça, cette obsession de Satan pour être adoré, il va même, et c'est incroyable, c'est fou, de proposer au Christ de l'adorer. C'est vrai. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est la folie, ça. Il va proposer au Christ de l'adorer. Il lui dit, si tu m'adores, eh bien je te donnerai la puissance et la gloire des royaumes de la terre. Et il ne ment pas, car il possède effectivement, Satan possède encore aujourd'hui la puissance et la gloire des royaumes de la terre. Il ne dit pas, le deal qu'il propose au Christ, de son côté, c'est vrai. Adore-moi, je te donnerai tout ça au Christ. Vous vous rendez compte? Proposer ça au Christ. Qui a dit justement à cette Samaritaine d'adorer Dieu seul. Mais incroyable! Est-ce que vous voyez un peu comment on est dans un conflit, mes bien-aimés? On est dans un énorme conflit. Bien sûr, le Seigneur va le reprendre, hein, Matthieu 4, 10. Retire de moi Satan, car il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc il faut une réponse humaine à une question humaine, hein, enfin, qui peut toucher l'homme. Alors pour nous, chrétiens des nouveaux, ben nous sommes dans ce conflit. Nous sommes dans ce conflit extraordinaire et Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 9, vous au contraire, attendez soin de nous, vous êtes une race élue, choisie, un sacerdoce royale. Effectivement, ça, ça veut, c'est une zone prêtrise, quoi. Pour le roi, une nation sainte, un peuple acquis. Et je pense que vous savez à quel prix le peuple nous a été acquis. Dans quel but? Écoutez bien. Et ça, c'est merveilleux. Afin que nous annoncions les vertus ou les qualités de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Autrement dit, la louange. Je répète, afin que nous annonciez les vertus, les qualités de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà notre but, voilà notre vocation. Quand je vous disais tout à l'heure, quand on annonce l'évangile, il faut toujours avoir en vue ce que Pierre est en train de nous dire là, ici, dans 1 Pierre 2,9. Ouais. J'ai été acquis à un prix énorme pour faire partie d'un groupe de personnes qui sont un sacerdoce, une nation sainte, un peuple qui annonce les vertus, la beauté de notre Seigneur Jésus. Et le dimanche matin, mais c'est ce qu'on fait. Et il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. Il ne faut surtout pas passer à côté de cette extraordinaire vocation qui est la nôtre. Donc nous sommes dans un conflit. Et bien sûr, ce n'est pas toujours évident. Et on m'a demandé souvent, mais comment adorer? Alors, est-ce que c'est juste poser la question? Oui. Les disciples eux-mêmes ont dit, comment adorer? Alors, on va passer dans un domaine un peu plus technique, si je puis dire, mais je crois qu'il le faut. Parce que l'adorer, c'est la gloire du chrétien. C'est la gloire de pouvoir adorer, en esprit, en vérité. Et c'est la gloire de l'Église, ainsi comme dans toutes les Églises, partout dans ce monde. C'est d'être donc des adorateurs du Dieu vivant. Alors, comment adorer? Alors, je sais que les jeunes chrétiens, par rapport à nous, les vieux et les vieilles, j'ai remarqué que plus on vieillit, plus la prière allonge. Je sais pas, c'est en fonction des anges, c'est pas bien. Ça, je trouve qu'il faut faire attention. Donc, pour moi, je pense que il faut prier des prières A, B, C. Ça, ça va se rappeler A, B, C. Alors, A comme audible. Quand j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre, pas été aux États-Unis, mais peut-être qu'un jour je serai le cas, je sais pas. Quand j'étais en Angleterre, quand ils prient, quand ils chantent, ils mettent les watts. Hein. Ah oui, c'est pas comme nous. Et quand une sœur prie, alors peut-être parce que aussi, il faut que je passe chez Odika, je n'entends pas toujours une voix audible. Mais je dis amen, parce que je sais que c'est ma sœur qui va parler au des bêtises, mais je dis amen, mais audible. A fortement, audible. B, comme bref. Je ne vais pas donner limite, mais je pense qu'en 10 secondes, 20 secondes, on a le temps de dire beaucoup de choses. 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à peu près pour lire le psaume 23. Vous savez, étaler les mots. Très belle, très beau. Ou alors, pour lire des paroles d'un cantique. On n'est pas obligé de le chanter, on peut aussi le lire. D'accord? Ou alors, oh, merci David, on a 150 psaumes à la disposition. Quelques versets d'un psaume. Mais on ne paraît pas à vide devant l'Éternel. Je ne peux pas dire le dimanche matin, bon, aujourd'hui, je fais ce que je... Non, je dois avoir préparé même quelque chose pendant la semaine. Seigneur, je vais t'apporter quelque chose. Je t'aime, voilà. Pourquoi je t'aime? Parce que tu as fait ceci, parce que tu as dit cela. A, audible. B, comme brève. Et il n'y a pas longtemps à faire suite à ça, demander pardon au Seigneur, parce qu'il sait que ses prières étaient un peu trop longues. Et bien sûr, nous les vieux chrétiens, quand on prend la parole, la tendance est un peu trop longue, parce qu'on a des milliards de choses à dire au Seigneur, c'est bien, mais il faut laisser un peu la place aux autres. Concise, c'est comme concise. C'est-à-dire, je n'explique pas au Seigneur l'Évangile. Il la connaît. Il la connaît très bien. C'est pas la peine que je raconte que voilà, tu es né après tu as fait ceci, après moi. Seigneur, je te remercie parce que, voilà, un sujet. Concise. Et je pense que si on fait cela, même si on est 50 dans l'assemblée, qu'il y en a 50 qui prient, à 20 secondes par personne, ça ne va faire que quelques dizaines de minutes. Quelques dizaines de minutes. Mais tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai remarqué que quand c'est ainsi, les prières, ça se bouscule un peu, peut-être, mais c'est dynamique, c'est vivant. Des fois, je suis embêté quand j'entends quelqu'un qui prie longuement comme ça. Ça me... Je le dis franchement, bon, je dis pas que ce qu'il dit n'est pas intéressant, mais bon, bref. J'ai connu des choses où le pasteur disait maintenant tant de prières libres, t'avais deux personnes qui priaient avec 10 minutes chacun, quoi, ou presque. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis il y a des personnes qui ont. Moi j'ai un frère qui disait, oui, mais je suis timide. Je sais pas, je suis timide, j'ai peur de faire des erreurs d'orthographe, de grammaire, de dire des bêtises. Je dis, tu prends un papier, et pendant la semaine, tu écris ta prière. Et il m'a dit, oui, mais le dimanche, je vais être réchauffé. Et je dis, les 150 psaumes de David, ça fait 3 minutes qu'ils sont réchauffés. Alors il a fait ça. Il faut encourager l'autre. Il faut lui expliquer le besoin que le Seigneur a de l'entendre. Et donc, ben, oui, il n'a plus besoin de ça. Il a pris son envol à ce niveau-là. A, comme on dit, B comme vrai, C comme concise. Voilà. Et que ce soit le cas pour votre Église, et encouragez-vous les uns les autres dans la vision du besoin du Père de pouvoir être loué. Nous annonçons les vertus, les qualités de notre Dieu. Et dans Éphésiens 5, 19, nous avons l'exemple. Entretenez-vous par des psaumes, les psaumes, on en a parlé à l'instant, et qui ont été écrits pour nous, et des hymnes, des cantiques spirituels. Ah, cantiques spirituels, serait-ce qu'il y a des cantiques qui ne le sont pas? Est-ce que ce cantique qui est dans ce livre est vraiment spirituel? Une fois, j'étais avec mon épouse, on était, je ne sais plus où, il y avait, j'avais pris un livre de chants catholiques, c'était ah oui, pas une manière. La Roche-Posay.
Pas
une manière. Pas une manière. Je regarde leur livre de cantique, pas une manière, c'est au lieu de catholicisme. Ah, mais j'ai ça en chant aussi. Alors j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'était pas des cantiques qui étaient explicites. On a certains qui auraient même eu des louanges pour Bouddha. Tellement, mon Dieu, il n'y avait pas de précision dans le cantique. C'était pas clair, c'était pas juste. Donc, si ici, Paul nous dit qu'il y a des prières, des psaumes et des cantiques spirituels, je pense que c'est pas par hasard, et ça n'est peut-être pas ce qui se passerait au XXIe siècle, où je connais une assemblée qui a eu un schisme à côté d'un cantique. L'ennemi est méchant. Et donc, attention, il faut absolument que ce soit des cantiques spirituel, et il est dit chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà, Éphésiens 5, 19. De tout votre cœur. Voilà. Et quand dans une église, il y a ça, je peux vous assurer que il se passe des choses. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais, jamais, jamais débiteur. Quand on le loue et l'adore, on lui donne quelque chose, mais il rend son tuple. Et j'ai remarqué combien de choses il veut nous donner. J'ai noté. D'abord, l'adoration est une arme puissante contre Satan et ses manigances. Dans une église où on prie, on chasse l'ennemi, comme le Christ l'a fait avec Satan, rappelez-vous. Bon, deuxièmement, il va nous donner donc, nous prenons position avec détermination et joie dans ce terrible conflit spirituel à qui va l'adoration. Dans une église, souvent, enfin, je pense que c'est pour, comme pour nous, quand quelqu'un a prié, Amen! Mais ça, c'est le lien. Amen, ça veut dire, soit dit en bon français, ça veut dire c'est le lien. Je ne suis pas d'accord avec mon frère, on est un petit bisbis, je ne sais pas quoi. Il prie, il loue le Seigneur, et c'est tellement juste, je dis Amen. Mais en disant Amen, il y a une sorte de réconciliation, il y a une unité autour de la louange. C'est notre future demeure, c'est le ciel. Et dans cette future demeure, ben, on fera des adorateurs. Et donc, il faut nous préparer avec des adorateurs comme il le faut. Donc, on a ça dans l'Apocalypse. Nous sommes un royaume, un sacrificateur pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance. Nous apprenons la reconnaissance. Le peuple chrétien manque de reconnaissance envers le Seigneur, mais souvent envers ceux, comme je disais tout à l'heure, qui ont la charge devant Dieu de s'occuper de nous. L'adoration m'édifie. L'adoration m'édifie. Bon, le prêche m'édifie. Mais souvent, je vous dis, des jeunes chrétiens, des jeunes chrétiennes, dans leur louange d'adoration, ils disent des choses qui m'ont vraiment édifié. Je n'y avais pas pensé. un aspect particulier à la personne de Christ, qu'il a mis en avant, etc. Et souvent, j'ai été voir la personne, il dit, oh, t'as prié tout à l'heure, je t'assure, tu m'as édifié. La louange, l'adoration édifie. J'en suis certain, elle édifie. On peut ça, dans cette unité, n'oublions pas que c'est là que le Seigneur est présent, hein, c'est là qu'il envoie, comme il le dit, la bénédiction. On est réconforté. Je viens dans l'assemblée, j'ai plein de problèmes parce que dans la semaine, j'ai eu des problèmes de mon travail, la famille, la santé, tout ce qu'on veut. Là, il doit y avoir une caisse, on le carton, on voit, je sais pas ce que vous voulez. Quand vous rentrez, vous déposez vos fardeaux, je veux plus de ça, je veux plus de ça. Maintenant, je veux me concentrer sur la personne du Seigneur. Et j'aime ce passage de Samuel 22:4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Parce que dans la louange, l'adoration, il y a une telle communion que je peux avoir avec mes frères et soeurs et avec le Seigneur, que tout le reste disparaît. Ça doit disparaître. Il m'est arrivé d'arriver le dimanche matin, les filles étaient malades, ou la voiture ceci, ou machin. Et j'ai arrivé, je n'étais pas du tout en forme. Et puis, une prière, deux prières, etc. Et hop, c'est parti. Loué soit l'Éternel, vers Samuel 22:4, et je suis délivré de tous mes ennemis. Contre les bienfaits de Dieu, et tu verras en adorant combien le monde est grand. Voilà. J'oublie des fois, et quand je commence à adorer, eh bien, tout disparaît, tous les problèmes disparaissent, et je vois en adorant tout ce que le Seigneur a fait pour moi. L'adoration est nécessaire à la croissance spirituelle. L'adoration est un facteur de santé psychique. C'est connu. Et souvent, c'est vrai que je suis fatigué, mais je suis renouvelé psychiquement, ça veut dire. Mon âme est restaurée par l'adoration dans cette communion intime avec le Seigneur. Je mets de côté mes besoins personnels. Le dimanche matin, on ne prie pas pour les beaux-voix. Je ne sais pas, je ne vais pas faire de son, mes frères. Mais le dimanche matin, le Seigneur. Les bobos, les problèmes, tout ça, à la réunion de prière. Le dimanche matin, le Seigneur. Voilà. Et croyez-moi, il nous rendra bien. Ceux qui sont les plus enclins à louer et adorer sont souvent ceux qui sont les plus enclins à servir. Il y a une relation entre les deux. De cause à effet, tu ne peux pas dire, c'est un peu l'histoire d'Éphèse, je ne peux pas dire Seigneur, je t'aime, etc., puis quitter l'église, en disant, moi, je mets le ministère de cette église. Alors, le pasteur a demandé qu'on fasse une petite distribution d'évangiles. Si j'adore vraiment, j'y vais. C'est normal. C'est normal. Amen. C'est une courroie de transmission entre Dieu et le service. Il y a adéquation entre la prière et l'action. L'adoration est un style de vie. Persévérance, discipline, et donc dans ma vie, elle doit avoir une place fondamentale. Bon, il y a encore plein de choses, mais je ne vais pas dépasser l'heure. J'ai pas envie qu'on coupe la parole, le micro et tout. Donc voilà. La liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y en a d'autres, bénédictions. Le Seigneur ne sera jamais débiteur. C'est clair. Je crois lui apporter quelque chose, et je lui apporte quelque chose, mais il me donne beaucoup plus. Et l'adoration, c'est une source de vie. Lisez le psaume 133. Voilà. Donc, d'abord, remercions le Seigneur d'être de ceux qui, dans ce conflit, sont du bon côté.
Amen.
Et c'est merveilleux de dire, il y a, je sais pas, 1 milliard de personnes sur la Terre, et puis on est quelques-uns, le petit troupeau, on n'est pas des 20 francs, parce que aux États-Unis c'était différent, ou en Corée du Sud c'était différent, mais le nombre ne joue pas. Le nombre ne jouera jamais. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'il y ait ce lien entre nous et lui, individuellement bien sûr, mais aussi collectivement, comme il le demande, là, 2, 3 sur le groupe. Que le Seigneur nous encourage, que nous comprenions la lutte, ce conflit. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait discerné, mais il y a un conflit terrible. Et moi, je suis partie prenante dans ce conflit, comme vous, chacun d'entre nous, pour louer le Seigneur.